Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous fasse loisir, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine et ce matin des fictions qui vous mettront, je l'espère, de bonne humeur pour vous accompagner en ce mois de janvier, réputé le plus déprimant de l'année avec le mois de novembre. Dans la bande ce matin, les journalistes Julien Bisson, Éric Libiot et Christina Pelledouel. Notre chef Grégory Cohen nous proposera une recette de saison à réaliser ce week-end. Il reviendra sur vos nombreux messages suite à sa recette d'aubergine laquée au miso qui a mécontenté de nombreux auditeurs. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. C'est un beau lancement. Hein,
c'est sympa, bon, voilà. Déjà, ça met l'ambiance.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice. Quel est le menu de votre chronique philo ce matin?
Eh bien, une chronique dont j'espère qu'elle va réjouir les oreilles de nos auditeurs. Une petite réflexion sur l'isolement auquel sont obligés beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui.
Bonjour Guillemette Audicino.
Bonjour Ali.
Votre chronique, c'est l'ami du vendredi, un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Qui deviendra notre amie cette semaine?
Eh bien, c'est une détective, donc ce n'est pas Hercule Poirot, donc c'est l'autre.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Quel plaisir de vous revoir après une chronique sexe.
Maintenant.
Oui, bah
incroyable.
Écoutez, c'est le bon voilà.
Ah bah c'est janvier.
Après une chronique sexe d'anthologie vendredi dernier, vraiment, je vous la conseille à nouveau à la réécoute. Il va falloir assurer cette semaine. Hein.
Tout à fait. On va parler de fiction qui nous met de très bonne humeur, la simulation. Je vais vous donner
tout le programme.
Nombre de femmes qui simulent le lit, ça va faire tellement mal. Et après, je vais décrypter les chiffres et ça va faire du bien. Ça va faire.
Et ce sera en fin d'émission. N'hésitez pas à nous dire comment vous surmontez ce mois de janvier assez déprimant en nous appelant au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Le sosie officiel de l'acteur François Civil. Quand il n'est pas rédacteur en chef du 1 Hebdo, il peut assurer sa doublure pour pas très cher. Hein. Vous êtes en promo. vous êtes en promo en ce moment, paraît-il. Alors oui. Plus sérieusement, à la une de votre Hebdo ce matin.
Eh ben à la une, on s'est un peu plus sérieux puisque c'est la justice contre la barbarie. On fait le point à la mi-temps du plus grand procès de l'histoire, celui des procès d'attentats du 13 novembre.
Bonjour Éric Libiot.
Bonjour Ali.
Journaliste et chroniqueur à lire magazine littéraire, chez nous régulièrement, hein, de temps en temps, le
et
mardi.
Et j'ai cette joie et ce bonheur.
Sosie officielle de l'Ours Breton. Petit avant-goût.
C'est très large.
Lui, qui est, voilà, mais petit avant-goût de vos choix.
Eh bien, écoutez, on va se plonger dans les coulisses de Autant l'emporte le vent, qui n'est pas le plus grand film du monde, mais le plus mythique.
Bonjour, Christina Pelledouel.
Bonjour, Ali.
Chef de la rubrique livre à Psychologie Magazine. Sosie d'Abnoba. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Ah, c'est pas
la,
du tout, non, c'est qui.
C'est la déesse gauloise associée aux forêts, aux rivières.
Oh, ça vous plaît? C'est gentil. Oui, ça bon. Va très bien.
Petit
oui,
avant.
Je ne sais pas quelle tête elle a, ouais, j'irai voir.
Bah, on imagine ce qu'on veut, vous savez. On imagine ce qu'on veut. Donc voilà.
Oui, justement.
Quel est l'avant-goût de vos choix?
Alors, avant-goût, le livre premier tome de la trilogie délicieuse de Gérald Durel, Ma famille et autres animaux. Et puis, un roman qui avait été couronné par le Médicis en 2014 de Lily Brett, un roman intitulé Lola Bensky.
Bonjour Grégory. Cohen,
bonjour Ali Rebéi.
Notre chef bien-aimé, sosie vocale de Patrick Bruel.
Ah, voilà.
Donc tout à l'heure, une recette de saison.
C'est hein pas vrai.
Hein donc,
okay. Oui, tout à fait.
Ce sera quoi?
Ah bah ce sera une superbe recette de saison.
Il aurait pu parler.
Caramélisé avec un cœur chocolat.
Alors vendredi dernier, vous avez provoqué le courroux de nombreux auditeurs. Votre recette d'aubergine laquée au miso en plein mois de janvier n'est pas passée. Je vous cite quelques messages. Je vous écoute actuellement dans mon champ en pleine récolte de mes épinards bio sans traitement. Je suis très déçu d'entendre une recette d'aubergine en plein mois de janvier. L'aubergine est un légume d'été. Donner cette recette le 14 janvier, c'est aberrant. Merci pour la recette d'aubergine. Dommage que ce ne soit pas un produit de saison. Alors, je suis le premier responsable, Grégory, car j'aurais dû être davantage vigilant quand vous m'avez proposé cette recette. Que répondez-vous au courroux légitime de nos éditeurs?
À l'aubergine gate.
Ouais.
Alors, tout d'abord, je souhaite remercier les auditeurs parce qu'ils sont nombreux à nous écrire et leurs messages sont tous importants. Ça, c'est évident. J'essaie d'y répondre moi personnellement. Effectivement, la semaine dernière, on a eu des auditeurs qui nous ont interrogés sur la recette des aubergines. Alors, bah, pour leur donner des précisions, je suis toujours et plus que jamais attentif à la saisonnalité des produits. Ça, c'est clair. Je privilégie toujours les programmes et les agricultures raisonnées. Ça aussi. Alors oui, la pleine saison de l'aubergine est effectivement de mai à septembre avec un pic de maturité en juillet. Cependant, et ça, ça n'a pas dû vous échapper, on n'a pas eu de climat aussi doux depuis plus de 70 ans. Et alors, scoop, le climat, influe sur la production des légumes. Ce qui est le cas pour cette aubergine, parce que dans le sud de l'Italie, en Sicile, d'où sont originaires ces aubergines rondes violettes auxquelles je faisais référence dans ma recette, la température et l'ensoleillement ont permis de pousser la production jusqu'à maintenant. C'est pourquoi elle figure encore sur des calendriers de produits de saison en janvier. Eh oui.
Bon, ben voilà, c'est dit. Merci Grégory Cohen pour ces précisions.
Coup, alors, on sent pas le pilori qu'on avait pris là.
Ça va ?
Ben moi, je m'attendais à te faire un sacrifice. J'ai un peu déçu en fait.
Mince.
C'était bien étendu.
Alors, ce mois de janvier, parfois considéré comme la période la plus triste de l'année, n'est-ce pas, Christy Lapelle-Edouard ? Je sais que vous n'aimez pas du tout ce mois.
Ah non, non, une horreur. Le mois de janvier, c'est le mois le pire de l'année, aucun doute. Pas d'ensoleillement, des journées trop courtes, sinistres, à n'en finir pas. En plus, il y a 31 jours en janvier, je vous fais dire un truc. Donc, bon.
Bonjour professeur Michel Lejoyeux.
Bonjour.
Vous êtes chef.
C'est un plaisir d'être avec vous.
Mais c'est un plaisir.
Moi, je suis de bonne humeur même en janvier, voyons.
Plaisir partagé, Michel Lejoyeux. Vous êtes chef de service psychiatrie et addictologie dans plusieurs hôpitaux parisiens. Pourquoi ce mois de janvier apparaît pour beaucoup comme Christina ou pour Guillemette, qui la semaine dernière nous a parlé de son week-end en jogging mou, voilà, assez triste. Pourquoi ce mois apparaît comme un mois déprimant? Et comment distinguer, Michel Lejoyeux, entre une petite déprime liée à ce mois-ci et une véritable déprime hivernale, saisonnière?
Oui, d'abord on peut être un peu triste, hein, effectivement, parce que le climat est un peu morose, mais je vais vous donner un scoop, une actualité en direct, là. Je regarde par la fenêtre de mon bureau à Bichat, je ne vois pas des files de patients mélancoliques voulant rentrer d'urgence à l'hôpital parce qu'ils sont effondrés par le mois de janvier. Donc, il faut vraiment se détendre. On a une émotion peut-être un peu désagréable, on a peut-être un tout petit peu moins d'énergie, mais on n'a pas les trois signes vraiment spécifique de la dépression, à savoir la perte de toutes les envies. Vous voyez, je suis sûr que certains d'entre vous ont encore des envies. On n'a pas la perte de l'estime de soi et on n'a pas non plus ce sentiment de culpabilité. Vous voyez, cette tendance à se faire des reproches. Donc, on est peut-être un tout petit peu morose, mais rien de plus. Donc, tout cela n'est pas du registre d'une maladie dépressive.
Alors, nos invités chroniqueurs vont nous conseiller des fictions qui donnent le sourire. Alors, ce n'est évidemment pas suffisant pour retrouver le moral en ce mois de janvier, mais ça y contribue. Quels sont vos conseils pratiques en cette période de l'année pour un petit peu moins déprimer?
Alors, d'abord, se rappeler savoir si on est dans une vraie dépression avec les signes que je vous ai dit ou pas. Et dans ce cas-là, tous ces petits conseils, évidemment, ne servent à rien. Sinon, deux choses peut-être. Le plaisir, on a peut-être moins de sollicitations de plaisir, vous voyez, spontané. Donc, pas trop de contraintes, pas trop de régimes prétendus adaptés au mois de janvier et qui nous contraindraient davantage. Et deuxième chose, l'activité physique. Là, on a un vrai antidépresseur naturel, mais c'est vrai qu'on est quand même moins tenté de bouger, de faire des choses, j'allais dire avec son corps et en bougeant son corps, en hiver qu'en été. Donc il faut, c'est André Gide qui disait, il faut toujours suivre sa pente, mais en montant. Là, il faut lutter contre l'envie de zoner et de ne rien faire et se mobiliser physiquement. Les émotions suivront.
Et s'obliger peut-être à s'exposer à la lumière naturelle dès le matin. Le plus possible.
Bien sûr, mais tout ça dans une dimension de plaisir, vous voyez, pas trop de contraintes. Vous avez déjà le masque, vous avez le pass vaccinal, on est dans une période où les contraintes sanitaires sont fortes. Je ne voudrais pas que les médecins abusent de cet impératif médical. Pourquoi pas s'exposer à la lumière, mais pas comme une ordonnance, vraiment comme en gardant un petit peu d'insouciance aussi dans tout ça.
Guillemette Audicino.
Ah ben moi, insouciance, ça me va. comme remède au mois de janvier, ça me va très bien de ne pas obéir aux contraintes non plus. Après, moi, le fait de beaucoup bouger, c'est une contrainte. Donc c'est ça.
Merci beaucoup, professeur Michel Lejoyeux. On peut lire avec profit les 4 temps de la Renaissance au livre de poche. Allez, les amis, place à vos ordonnances de fiction qui mettent de bonne humeur. Alors, Christy Lapelle-Edouard, dans votre sélection, Ma famille et autres animaux de Gérald Durel, c'est publié à la Table Ronde. Le naturaliste Gérald Durel, c'est l'un des enfants de l'écrivain britannique Lawrence Durel. Pourquoi ce choix ?
C'est le frère cadet.
C'est le frère.
Le frère cadet de Laurence Durel.
Je pensais que c'était son fils.
Oui, oui, ils étaient quatre dans la fratrie. Et ben, ce choix, tout simplement, parce que c'est ce livre, et puis les deux autres qui suivent, puisque c'est une trilogie, est un des summums reconnus comme tel à travers le monde de l'humour anglais. Voilà. Donc, si vous avez envie de passer un bon moment pendant le week-end et de rire, franchement, de rire, vous pouvez vous précipiter sans problème sur Ma famille et autres animaux, dont le titre à lui seul est déjà tout un programme. Alors, Gérald Durel, il était naturaliste, il est mort dans les années 90, début des années 90, et fondateur du zoo de Jersey, de la Fondation Durel pour la vie sauvage. Il était écrivain, conférencier. Et donc, il appartenait à cette famille Durel, de 12 excentriques. D'ailleurs, au passage, je vous signale que Ma famille et autres animaux a été adapté avec succès par la télévision britannique. Mmh. Je ne sais plus si c'est la BBC ou une autre production. En tout cas, ça a été un grand succès. Et de quoi est-il question ? Eh bien, Gérald Durel raconte son enfance à Corfou. La famille Durel avait décidé d'émigrer pour un temps. En réalité, ils y sont restés 5 ans, 5 années pleines. D'abord parce que le père était mort au moment où ils sont partis, et ensuite parce que cette famille connaissait des difficultés financières sérieuses et que, justement, parlons-en, le temps britannique les déprimait quelque peu. Donc ils ont décidé, en 1935, de partir à Corfou, tout le monde, tous les quatre. Alors inutile de dire que dans ces années-là, c'était nettement plus facile que maintenant, et que par ailleurs, partir d'Angleterre pour aller à Corfou, en effet, ça a arrangé considérablement les finances. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette famille totalement excentrique, absolument imperméable au regard d'autrui, se livre à des choses tout à fait extraordinaires. Ils ont une vision des autres, de l'existence qui est complètement décalée et extrêmement drôle. Et donc Gérald Durel, qui avait 10 ans à l'époque, raconte tout ça avec un humour absolument irrésistible, et il en a profité pendant ces années-là. Il était déjà extrêmement intéressé par les insectes, les animaux, etc., pour découvrir la faune et la flore de cette île magnifique qu'est Corfou. Et tout au long de ce récit, on découvre les relations très drôles entre les membres de cette famille, où tous ont des personnalités très affirmées, et avec ce regard décalé sur toutes leurs mésaventures. Voilà. Et donc c'est pour ça, moi je vous conseille vraiment, si vous avez envie de rire, lisez-le pendant le week-end ou à un autre moment. Et puis concentrez-vous aussi sur les deux autres volumes de la trilogie, avec profit et rigolade.
Gérald Durel, Ma famille et autres animaux, ça fait partie de la trilogie de Corfou, et c'est publié dans un format poche à la Table ronde, et c'est le conseil de Christilla Pelédoel. Alors, Éric Libiot, j'ai commencé le livre que vous nous conseillez ce matin. Ça s'appelle Scarlett. C'est signé François-Guillaume Laurin. C'est publié chez Flammarion. Pour le moment, je trouve ça sensationnel. Grâce à ce livre, Éric Libiot, nous pénétrons dans les coulisses excitantes de ce film mythique, en particulier, et d'Hollywood en général, hein.
Oui, bah écoutez, vous avez bon goût, Ali. Et vous verrez, jusqu'à la fin, c'est absolument formidable. Alors, c'est effectivement les coulisses de ce film mythique, qui pour moi n'est pas le plus grand film du monde, mais c'est effectivement le plus incroyable, le plus mythique, celui qui a raconté, si je puis dire, une histoire. C'est Selznick qui produit, recherché la Scarlett O'Hara, Viviani, alors que toutes les actrices de Hollywood, de Catherine Hepburn, Norma Shearer, Joan Crawford, Bette Davis, s'étaient mises sur les rangs. C'est un tournage monumental, c'est une production qui a coûté des millions de dollars. C'est aussi la première fois qu'un film a été autant nominé aux Oscars, qu'il en a eu autant. Il en a nominé 13 fois, il en a eu 8, dont celui pour Hattie McDaniel, qui est la première actrice noire, et non pas Sidney Poitier, à avoir obtenu l'Oscar du second rôle. Bref, c'est un film absolument mythique. Alors on se dit, on va plonger dans les coulisses, ça va être un livre de cinéma, on va apprendre plein de choses, et effectivement, on apprend énormément de choses, mais bizarrement, sur la couverture, il y a marqué roman.
Roman, oui, c'est étonnant.
Et c'est ça qui est assez extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est un roman, et c'est là tout l'intérêt du bouquin. C'est effectivement très très documenté, mais surtout formidablement raconté, remis en scène, remis en perspective, François-Guillaume Lorrain s'est basé sur une documentation énorme. Il le raconte dans un article du Monde paru la semaine dernière. Il avait écrit un bouquin de 600 pages au départ, extrêmement documenté. Et puis après, il a commencé à tailler dedans et à rendre son livre plus romanesque. Donc, il réinvente des dialogues, il réinvente des scènes, et toujours à partir de documents extrêmement précis. Et du coup, ça donne une force littéraire, une incarnation. On est vraiment dedans. Et c'est surtout formidablement écrit, c'est pas du tout écrit à l'universitaire comme on pourrait s'y attendre sur des bouquins qui racontent comme ça l'histoire du cinéma. C'est aussi une histoire de jalousie, de vengeance, de pouvoir. Il faut dire que c'est le père de Selznick fait partie de la deuxième génération des grands producteurs de Hollywood, après Warner, après Goldwyn, après Louis B. Mayer, et son père lui-même a été producteur, mais il a été ruiné. Et donc il y a une espèce de revanche de la part de Selznick en disant je vais produire le plus grand film de l'histoire du cinéma. Effectivement, ce qu'il a fait, il faut dire que Selznick s'occupait de absolument tout. Les costumes, il y a 3500 costumes. Les costumes, le montage, le scénario. Petite anecdote et je termine là-dessus. Selznick, qui était effectivement tous les jours sur le tournage, changeait régulièrement le scénario. Et les acteurs étaient assez inquiets de voir apparaître le matin les changements. Alors si les changements étaient sur papier blanc, il n'y avait pas trop de changements. Si c'était sur papier rose, il y avait quand même des changements importants. Et si c'était sur papier bleu, alors là, tout a changé, il fallait tout réapprendre le texte. Juste quand même un petit mot, c'est adapté de Margaret Mitchell, bouquin publié en 1936 alors que le film est sorti en 1939. Et c'est l'histoire de Scarlett O'Hara, une jeune fille de la bonne société sudiste en 1861 qui est amoureuse de Ashley, qui malheureusement va épouser la cousine de Scarlett O'Hara, alors que Red Butler, joué par Clark Gable, va lui tomber amoureux de Scarlett sous fond de guerre de sécession. Et demain sera un autre jour, on parlait du mois de janvier, demain sera le mois de février. Tomorrow will be another day, c'est la fin du film.
Guillemette.
Oui, je l'ai acheté, j'ai commencé aussi à le feuilleter, je vais me pencher dessus plus sérieusement ce week-end, mais c'est vraiment une idée géniale, parce que de se dire, oh, encore un truc qui va nous raconter, un tournage, etc. Il faut vraiment dire aux gens qu'ils n'ont pas besoin d'être particulièrement cinéphiles, ou c'est pas...
Ah non, même pas du tout.
Oui, c'est vraiment, c'est une idée fabuleuse d'en avoir fait un roman, en fait.
En tout cas, ce sera mon plaisir ce week-end, Scarlett de François-Guillaume Lorrain, et c'est publié chez Flammarion. Vous pouvez retrouver toute cette sélection sur l'appli et sur le site de France Inter. 10h24, il est l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Audicino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Guillemette Audicino, qui mérite notre amitié cette semaine ?
Alors, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, vendredi dernier, vous l'avez rappelé, je vous confiais que j'ai ces derniers temps un penchant de plus en plus marqué pour la position assise. Avec une tenue vestimentaire qui ne bouge pas, elle non plus, depuis le confinement, un jogging mou. Donc
vous m'avez envoyé la photo d'ailleurs.
Non mais ne dites pas non plus. Tout. Une polaire douillette. Et une grosse paire de chaussettes avec des têtes de cerf, des têtes de Père Noël. Fin...
Là encore, là ?
Eh ben écoutez, si vous saviez, oui, j'en ai même une. J'en ai une paire dans mes bottines à l'heure actuelle. Bien. Enfin, c'est pas les mêmes que cette nuit. Hein. Oui. Alors, il me fallait donc évoquer une grande amie qui offre un parfait alibi à mon immobilité. Cette coquine de Miss Marple. Jane Marple. La détective en fauteuil... dans son petit cottage de Sainte-Marie-Mide, village imaginaire de la campagne anglaise. Elle apparaît pour la première fois sous la plume d'Agatha Christie dans une nouvelle de 1927, puis devient l'héroïne de l'affaire Protero en 1930 et de 11 autres romans, toujours aussi délectables aujourd'hui pour leur savant mélange de marmalade et de strychnine. C'est toujours et simplement par déduction logique que cette vieille dame aux cheveux blancs neigeux et aux yeux d'un bleu très pâle résout donc des crimes depuis son fauteuil ou autre poste d'observation statique. Bon, il est vrai que Jane marche au grand air, car c'est bon pour la santé. On l'a dit tout à l'heure. Mais cela me rassure tout de même que ces petites cellules grises fonctionnent tout aussi bien sur canapé, puisque les informations et les ragots viennent à elle.
Je vous assure, docteur, que je vais tout à fait bien, je n'ai rien.
Vous voulez peut-être aller vous inscrire pour la course ? Elle va bientôt commencer. Vous avez fait une mauvaise chute.
Oh, mais non, je n'ai absolument rien, voyons.
Il est vrai que vous n'avez rien de cassé, c'est surprenant. Vous vous en tirez avec une simple entorse. Vous devez avoir un secret pour conserver une pareille ossature.
De longues marches par tous les temps, docteur. Voilà mon secret.
Eh bien, il n'est pas question de marcher pendant quelques jours. Je vais vous ramener en voiture. Attention, je viendrai vous rapporter tous les ragots que vous allez manquer aujourd'hui en faisant mes visites demain.
Je vous en prie. Je suppose que par ragots, vous entendez l'intérêt porté à la nature humaine, docteur.
Oui. Non seulement l'expression « petite cellule grise » n'est pas l'unique propriété de Hercule Poirot, mais de plus, Jane, elle, ne se vante pas toutes les deux secondes de ses capacités de déduction. Elle fait juste appel à son expérience et elle lit entre eux des souvenirs qui peuvent paraître anecdotiques en suivant cette maxime dont nous constatons hélas le bien fondé dans nos vies quotidiennes, la nature humaine est partout la même. En gros, rien ne ressemble plus à un squelette dans un placard qu'à un autre squelette dans un autre placard, que ce soit dans un village anglais, le salon d'une star de cinéma ou à Ibiza. C'est ce qu'un critique anglais résuma en cette formule, les parallèles villageois de Miss Marple. Car Jane sait que rien ne bouge, en fait, quand il s'agit de jalousie, de haine et de cupidité. Nihiliste tranquille, elle a conscience que rien de nouveau n'advient, même en plein chaos, et que le monde de demain ressemble à s'y méprendre à celui d'hier. Sa meilleure arme ? Une paire de jumelles pour observer les oiseaux. Alors, ornithologue, mon œil, hein, elle en eut surtout pour surveiller son voisinage.
Alors, vous aimez, Guillemette, que cette détective soit une vieille dame indigne, hein ?
En fait, Ali, à ce sujet-là aussi, Jane est singulière. Vieille anglaise en mitaine de dentelle, elle milite pour la morale et la dignité. Mais pour autant, rien ne la choque. Et elle peut être sacrément rosse dans ses commentaires, à la manière de la géniale Violette, comtesse douairière de Grantham de la série Downton Abbey. Ce n'est pas que Jane est méchante, mais elle n'attend pas grand-chose de l'humanité, et particulièrement de la gente masculine. Il faut dire qu'elle a été larguée alors qu'elle était toute jeune. Pour elle, ces messieurs, comme elle les appelle, ne sont jamais très clairs. On lui fait remarquer que les langues de vipères qu'elle écoute, comme autant d'indices, ne sont pas très charitables. Elle rétorque qu'hélas, elle révèle souvent la vérité. Alors en fait, je vous donne trois indices. Le fait que Jane soit amatrice d'oiseaux, qu'elle ait même un profil d'oiseau. Le bleu pâle de ses yeux, sa paranoïa constante sur ses contemporains et son usage professionnel des commérages, sans bouger de chez elle. Ça ne vous dit rien ? En fait, mon amie Jane Marple est l'ancêtre de Twitter.
Ah, mais c'est un beau rapprochement, ça. Ah là là. Christina, vous avez un côté Miss Marple.
Ah bon ? Vous trouvez ? C'est le, mon profil d'oiseau, c'est ça ?
Non, c'est le côté scones.
C'est le côté crumble.
Oui, j'avais cru comprendre, bon. Mais j'essayais de vous faire dérailler un peu.
Grande amatrice de Miss Marple. Hein.
Ah oui, non, mais j'adore, évidemment, Agatha Christie, au-dessus de tout. Et puis j'adore la chronique de Guillemette, ouais, c'est tout à fait ça, hein. Les petites cellules grises de Miss Marple, elle en a à revendre et c'est un personnage délicieux. Et c'est pas une vieille dame indigne, elle est très digne, au contraire. C'est justement ça qui fait son charme.
L'ami du vendredi de Guillemette Audicino a podcasté sur l'appli France Inter. L'émission a été préparée cette semaine par Alexia Rivière, Julia Macarez et Camille Pouc-Jalagui avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destacan. La programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique cette semaine, Pierre-Yves de Rolin et Rémi Sistiaga. Et on écoute Kate Bush, Babouchka, un titre de 1980. Julien Bisson n'était pas né, Thibaut de Saint-Maurice dissertait déjà sur Kant, Éric et Grégory faisaient des pieds et des mains pour entrer au Palace à Paris, alors que Christina Guimet assurait le show à l'intérieur.
Ah oui, on attendait cette chute.
To fool him, she couldn't have made a worse move. She sent him 70 letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by, and how she was when she was beautiful. She sang the letter R. Babushka, 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 yeah, yeah. Babushka, 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 yeah, yeah. She wanted to take it further, so she arranged a place to go to see.
Babouchka.
Tu vois, le matin, au petit déjeuner, je regardais les séries.
Grand bien vous fasse.
J'allais au boulot, je me cachais dans les chiottes pour aller regarder les séries. Puis un jour, quand on regardait les écrans, je regardais Dr House, la saison 6. Mais j'ai pas vu, il y a une fuite radioactive.
Sur France Inter.
10h33, grand bien vous fasse loisir. Et des fictions pour vous mettre de bonne humeur en ce mois de janvier interminable. Diane d'ailleurs qui nous écrit, ce n'est pas que je n'aime pas le mois de janvier, c'est juste qu'il dure 3 mois.
Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. C'est votre toute première journée dans la vie après la mort. Vous êtes tous indéniablement des gens bien. Alors bienvenue à tous dans le bonheur éternel. Bienvenue à tous au bon endroit. Sponsorisé par les loutres qui dorment en se tenant la main. Vous savez ce qu'on ressent quand on voit la photo de deux loutres côte à côte? C'est ce que vous allez ressentir aussi tous les jours.
Alors, Julien Bisson, en ce moment, vous vous fendez la poire de saison en regardant la série The Good Place, une série américaine du géant Netflix qui se déroule au paradis. Une série créée par Michael Schur, qui a débuté en 2016, 4 saisons. Alors, je ne voudrais pas vous casser votre cou, mais je ne suis pas encore parvenu à rentrer dedans. Vous allez peut-être me convaincre, mon cher Julien Bisson.
Déjà, The Good Place, vous l'avez dit, créé par Michael Schur. Michael Schur, c'est l'homme derrière Master of None, mais aussi scénariste pour The Office, Brooklyn Nine-Nine. Donc, on est plutôt du bon côté de la comédie. Le bon côté, c'est justement le thème de la série. The Good Place, le bon endroit. The Good Place est donc le paradis, c'est un endroit réservé aux personnes exceptionnelles, aux âmes pures, tandis que tous les autres, donc à peu près nous tous autour de cette table, on va finir au mauvais endroit, The Bad Place, peuplé de démons et d'horribles tortures. Heureusement pour le personnage principal, Eleanor Shellstrop, qui est jouée par la géniale Kristen Bell, elle se réveille dans le bon endroit. Sauf que Eleanor, elle le sait, elle n'a pas vraiment sa place dans cet endroit. Elle n'est pas vraiment une âme exceptionnelle. Elle va vite se rendre compte qu'elle est arrivée ici par erreur et que sa présence au paradis va déclencher tout un tas de phénomènes étranges. Alors, The Good Place, c'est 4 saisons d'une sitcom totalement unique, déjantée au possible et en même temps truffée de références à la philosophie. Thibaut, je vous la conseille. Philosophie de Kant, Aristote, Kierkegaard, de réflexion sur le bien et le mal, sur les âmes sœurs ou encore sur la possibilité d'un développement éthique. Alors, c'est une série absolument unique sur l'au-delà, mais qui nous réconcilie justement avec l'idée du trépas. Elle nous rappelle combien c'est lui qui donne sa valeur à nos vies. C'est aussi une œuvre qui change un peu de la noirceur habituelle des séries qu'on regarde. Vous savez, on a l'impression que toutes les séries qu'on regarde se pataugent dans une noirceur humaine. Et bien là, c'est au contraire une petite fenêtre d'optimisme pétillant, de bonté humaine, mêlée à l'humour le plus délirant. Vous voyez une série qui remonte le moral. Et bien, The Good Place, ça nous rappelle que tout le monde peut s'améliorer, même Gregory Cohen, et que même les démons peuvent progresser. Donc allez-y, jetez-vous là-dessus. Pour l'hiver, pour passer l'hiver, il y a 4 saisons, c'est des petits épisodes, 4 saisons, ça vous aide à passer les 3 mois du mois de janvier.
Qui partage cet enthousiasme autour de la table, Thibaut de Saint-Maurice?
Moi, absolument. C'est vraiment super, et aussi dans l'esthétique de la série qui est réconfortante, parce qu'il y a plein de couleurs, c'est très joli en fait.
Oui, et puis c'est une des séries les plus diffusées par extrait dans les cours de philosophie, parce qu'effectivement, il y a un des personnages dont j'ai oublié le...
Chaidi.
Voilà, le nom à l'instant, mais qui est professeur d'éthique appliquée, et donc il y a à chaque fois des tas d'exemples, des tas de références. Et notamment, il y a une très belle reconstitution d'une expérience de philosophie morale appliquée qui s'appelle l'expérience Le dilemme du tramway. Voilà, et qui est un élément de culture philosophique générale assez époustouflant et qui peut en plus animer vos dîners.
Si rappelez ce dilemme en quelques mots.
Non, en quelques mots, c'est une façon d'éclaircir en fait nos croyances morales. On se retrouve dans, c'est une expérience de pensée, donc il faut vous imaginer dans un tramway qui file à toute vitesse et le conducteur a disparu et en fait on est face à un embranchement. Si on ne fait rien, le tramway va écraser une famille qui traverse et si on bouge un levier, le tramway change de ligne et va écraser deux ouvriers en train de travailler sur la ligne d'à côté. Et donc, on pose cette expérience de pensée parce que la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire ? Soit je ne fais rien, mais ma non-action entraîne la mort d'une famille, soit je fais quelque chose, donc là, je suis en un sens responsable, et je tue deux ouvriers en train de travailler. Et ça permet, comme ça, d'éclaircir des principes moraux, d'abord des croyances morales, puis des justifier sur des principes. Est-ce que vous êtes plutôt utilitariste ? Est-ce que vous êtes plutôt kantien ? Est-ce que vous êtes plutôt, etc. Et donc, c'est très amusant.
On sait ce que ferait Éric Libion, dans ce cas-là.
Moi, j'appelle Spider-Man.
Il en reste quoi ?
Et pour la petite histoire, ce dilemme du tramway, il se pose aujourd'hui sur, vous savez, les véhicules autonomes. Et on voit bien que selon les pays, eh bien, ils vont programmer les véhicules de façon différente parce que les principes moraux ne sont pas exactement les mêmes.
The Good Place, c'est la série du moment pour Julien Bisson et c'est disponible chez Netflix. Maya Mazorette, en ce moment, vous prenez beaucoup de plaisir avec une série assez délirante consacrée à des vampires. Exactement. C'est diffusé sur Disney+. Alors, je vous laisse prononcer la série parce que je ne vais pas me ridiculiser.
Alors, l'accent anglais d'Ali. What we do in the shadows, ce que nous fomentons dans les ténèbres. C'est ma traduction à moi. Si vous aimez un peu les mockumentaires comme The Office ou Parks and Rec, là c'est pareil.
Mockumentaires, ce sont des faux documentaires.
Oui, c'est ça. C'est un faux documentaire sur une colocation de vampires à Staten Island, à New York. Et alors, les personnages sont complètement délirants, mais il y en a un que j'adore et qui me réconforte beaucoup. C'est Colin Robinson. Et c'est un peu ce mec qu'on a tous croisé, qui a un peu d'âge moyen, qui a un peu d'apparence moyenne, qui a un peu un pull gris ou un truc un peu informe. Et à chaque fois qu'il vous adresse la parole, même si ça dure 5 secondes, ça dure 5 heures, parce qu'il vous saoule tellement, et en fait c'est un vampire psychique qui se nourrit non pas de sang, mais de l'énergie de son entourage, et ce personnage qu'on connaît tous, je le trouve très réconfortant.
Redonnez le titre, ma chère Maya.
What we do in the shadows, my dear.
Et c'est disponible chez Disney+. Chrissy Lapelle-Edouel, pour assurer notre bonne humeur en ce moment, vous avez choisi le roman autobiographique de Lily Brett. Ça s'appelle Lola Bensky. C'est publié en poche chez 10-18 et ce roman autobiographique a reçu le prix Médicis étranger en 2015. Que raconte Lola Bensky et pourquoi ce roman vous a-t-il réjoui?
Je voudrais d'abord rendre un bref hommage à Lily. Éditrice Paulina Nourricier, qui a découvert cette pépite et qui l'avait publiée à l'origine dans sa maison d'édition, qui a hélas disparu depuis. Et donc, hommage à elle. Voilà. Et donc, Lily Brett est une auteure de nationalité australienne et qui est bombardée à l'âge de 20 ans, donc au milieu des années 60, elle est bombardée à l'âge de 20 ans par un petit magazine de rock australien. En Angleterre et aux USA, pour couvrir les plus grands festivals et aller rencontrer les stars montantes. Alors, je vous en cite quelques-unes, Mick Jagger, Jimi Hendrix, Janis Joplin, enfin bon, and so, comme dirait Maya. voilà, et donc, en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est qu'elle ne connaît absolument rien au rock, mais alors rien du tout. Non seulement elle ne connaît rien au rock, mais elle ne sait même pas qui elle va interviewer. Elle en a entendu parler, évidemment, elle est sérieuse, elle se renseigne, etc. Mais comme en plus, elle n'est pas du tout musicienne, et même qu'elle n'aime pas forcément la musique, vous imaginez le décalage quand elle va interviewer ses stars. Et donc, évidemment, ça donne lieu à des quiproquos formidables. Et elle arrive en plus avec une naïveté extraordinaire, parce qu'elle arrive de sa famille juive, émigrée en Australie, traumatisée par la guerre, etc. Elle arrive et elle est totalement éberluée par ce qu'elle voit, parce que vous imaginez le Swinging London, les délires absolus, Jimi Hendrix qui se balade avec des vestes en soie, etc. Et donc le résultat est absolument irrésistible. Alors bien sûr, il y a les situations, mais il y a aussi le talent inouï de Lily Brett, qui est extrêmement connue, très célèbre en Australie et aux États-Unis. Et c'est hilarant. Et alors, non seulement c'est hilarant, mais il y a plus, il y a une dimension, une dimension beaucoup plus profonde, parce que au fur et à mesure qu'elle avance dans le récit très drôle de ses rencontres, elle évoque aussi le passé de sa famille, qu'elle met en regard avec ce qu'elle est en train de vivre, et le résultat est incroyablement touchant et émouvant. Voilà. Je vous signale au passage qu'elle a publié un deuxième livre, que je vous invite aussi à lire et qui est tout aussi drôle, rien à voir avec les rockstars, il s'agit de son père.
Lola Bensky, c'est le roman autobiographique de Lily Brett et c'est publié en poche chez 10-18. Alors Éric Libiot, décidément vous me plaisez beaucoup ce matin, vous nous conseillez la scène lecture d'Éric Chevillard, ça s'appelle l'autofictif Nu sous son masque, c'est publié à l'Arbre Vengeur. Je sais que certaines et certains aimeraient vous voir nu et masqué.
Mais pas moi. Hein.
Mais vous allez plutôt nous conseiller le Éric Chevillard.
Voilà. Hein. D'abord, il a un très joli prénom et beaucoup de talent, ce qui va pas forcément de pair.
Alors c'est un recueil d'aphorismes et de réflexions.
Voilà. Alors c'est depuis des années, il publie sur son site tous les jours, absolument tous les jours, trois textes. Alors plus ou moins grand, une ligne, quatre lignes, des aphorismes, des mini-nouvelles, des réflexions du quotidien ou sur le sens de la vie, c'est absolument absolument formidable. Alors ça se lit partout, hein. Ça se lit avant de s'endormir, en prenant le café, dans les toilettes, dans le métro, ça se lit à haute voix, ça se partage avec les autres, voilà, on peut effectivement tout faire. Le plus simple, c'est de vous citer quelques exemples, parce que, alors une spécialement pour Maya. Les murs sont si minces que l'on entend gémir de plaisir la voisine et ronfler son mari, et souvent en même temps.
C'est exactement la thématique de ma chronique après. J'adore.
Voyez, il y a aussi des réflexions parfois un peu plus subtiles. L'anguille file droit, c'est la rivière qui serpente.
Hein, on dirait un haïku.
Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Une que j'aime beaucoup aussi, alors qui date, alors ce recueil-là, hein, va du 18 septembre 2020 au 17 septembre 2021, ce qui est à peu près un an si vous suivez le truc. Alors le 4 avril, il écrivait: je comprends que l'on attache une cloche au cou des bêtes qui pèsent dans les alpages et peuvent se perdre dans la brume ou tomber dans une crevasse. Mais pourquoi en mettre une aux églises, franchement? Ça se voit de loin une église, ça ne bouge pas beaucoup. Non, il y a eu là une confusion, imputable sans doute à un bedeau porté sur la boisson qui se trompa dans les attributions, et dès lors, ce sont les brebis qui s'égarent.
Oh. L'autofictif.
Une petite dernière que j'aime beaucoup, qui date du 2 janvier de cette année, parce que donc on peut le voir sur ce site. On ne s'embête pas dans cette résidence pour personnes âgées. La programmation des animations de la journée est affichée à l'entrée du foyer. 15h belote, 16h rebelote.
L'autofictif nu sous son masque, c'est publié à l'Arbre Vengeur et c'est signé Éric Chevillard. Ah, ça fait rêver Grégory Cohen, là. Vous êtes bien, là, hein?
Ah oui, on est bien, là.
Guillemette dessina un classique de Léo McCarré pour se réconforter. C'est évidemment Elle et lui, avec Cary Grant et Deborah Kerr. Et il s'agit de la version de 1957, le remake du film du même Léo McCarré, réalisé 18 ans plus tôt avec Charles Boyer et Irène Dune.
Oui, absolument. C'est l'un des rares cas de auto-remake hollywoodien. Donc le premier était en noir et blanc, et donc 18 ans plus tard, alors là, c'est le Technicolor, mais alors dans toute sa splendeur, hein, rien que ça, vous pouvez mettre sur pause, le mettre en fond là sur votre télé dans le salon, et c'est bon, vous avez de la bonne humeur pour toute la journée. Eh bien, c'est l'histoire de Nicky Ferrante et Terry McKay. Lui est un playboy oisif, talentueux dans tous les domaines, mais bon, qui va finir par se marier avec une riche héritière, et Terry McKay, une ancienne chanteuse de cabaret, qui elle aussi va finir par se marier avec un industriel raisonnable. Et tous les deux se rencontrent lors d'une croisière sur un paquebot. Ils sont pris, ils sont promis à quelqu'un d'autre, mais comme ça, juste le plaisir du marivaudage, le plaisir de la discussion. Et ils sont tellement brillants l'un et l'autre, et ils sont tellement séduisants l'un et l'autre, qu'évidemment, épime, ils tombent amoureux. Mais ce sont quand même des gens sérieux. Donc ils se donnent un mois pour être certains de leurs sentiments. Et ils se donnent rendez-vous, ça vous dit rien, ça c'est toujours cité dans beaucoup d'autres films, tout en haut de l'Empire State Building. Eh ben, au bout d'un mois, il n'y en a qu'un qui est au rendez-vous. Point de suspension, pourquoi, comment? C'est une merveille, puisque ce qui est magnifique, c'est que ça commence vraiment comme une comédie sentimentale sophistiquée, magnifique, et ça finit en mélo lumineux. Vous allez rire et pleurer en même temps, et être explosé de couleurs, et explosé par le charme de Cary Grant et Deborah Kerr. C'est ce week-end, hein, s'il vous plaît.
Elle et lui de Léo Macaré, tout le monde acquiesce autour de la table. Hein.
Oh là là.
Ça suffit.
Voilà. Et Cary Grant, voilà, je ne dirai rien d'autre. Voilà.
Allez, 10h46, il est l'heure de retrouver la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous pensez à tous ceux qui sont conduits à l'isolement du fait de la virulence de cette cinquième vague épidémique.
Oui, Alien, vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, étant donné l'ampleur de la vague de contamination ces derniers jours, eh ben, il faut bien dire que pour beaucoup, la vie quotidienne est d'abord marquée par l'obligation donc de s'isoler plusieurs jours pour ne pas contaminer les autres, avec parfois des situations compliquées à l'intérieur même des familles, avec deux équipes, hein, les positifs et les négatifs. Alors, d'extraordinaire, l'isolement devient ordinaire, au sens où il impacte la forme même de notre vie. Pendant une semaine, nous faisons l'épreuve d'une rupture, hein, une rupture de nos liens, de nos fréquentations, de nos activités. Bref, nous mesurons en creux comme notre vie est pleine de ce que nous devons aux autres et au monde, et nous mesurons comme cet isolement rime avec empêchement.
Et comme il est une condition tout à fait inappropriée de notre existence humaine.
Oui, et je crois pour au moins deux raisons. D'abord parce que, comme le remarquait le philosophe Merleau-Ponty, nous sommes des êtres de relation, et que de ce fait, l'isolement nous isole de nous-mêmes. Le mot isolement vient du latin insula, qui désigne l'île, ce qui inspire cette version plus poétique, hein, au poète anglais John Donne. Nul homme n'est une île complète en elle-même. Chaque homme est un morceau du continent, une part de l'océan. Nous ne sommes pas des îles parce que nous portons en chacun de nous une humanité partagée. Et notre singularité même n'est que le croisement en nous de toutes ces relations que nous entretenons. Ainsi, le centre de ma vie, eh bien, ce n'est pas moi, mais bien tous ces autres avec lesquels je suis lié, qui se rencontrent en moi et qui font exister le monde pour moi. Autrui est la pièce maîtresse de mon univers, ça c'est ce qu'écrivait Michel Tournier dans sa nouvelle version justement des aventures d'un grand isolé, Robinson Crusoe. La deuxième raison, plus métaphysique, c'est que l'isolement nous ramène à la fragilité de notre existence. En nous coupant des autres, en ramenant notre horizon à celui de notre chambre ou de notre intérieur, l'isolement nous rappelle ce que le philosophe Pascal appelle la misère de notre condition. En clair, le fait que nous soyons mortels. L'isolement nous rappelle que nous sommes mortels, avouez qu'il y a plus gai comme ambiance. Et c'est la raison pour laquelle, d'après Pascal, il nous est insupportable et que nous nous agitons dans tous les sens en nous procurant des activités qui nous détournent de cette conscience de notre propre mort. Alors certes, il y a bien une ligne de crête qui se dessine et qui se propose, si nous l'empruntons, de convertir cet isolement en solitude choisie, en exploration de sa propre intériorité, en constitution d'une citadelle intérieure. Ça peut même être une voie de sagesse, mais ça sera le travail d'une vie et non pas de quelques jours. Et même dans cette solitude-là, la rencontre avec les autres et leur présence est toujours possible. Nul homme n'est une île, donc je préfère moi cette leçon-là, car elle nous invite, hein, le temps de notre isolement forcé, à réaliser que l'important n'est pas seulement d'être soi, mais de se souvenir que l'on est soi-même qu'en se recevant des autres.
Devinez quoi, Thibaut de Saint-Maurice ? Je souscris totalement à votre chronique après cette semaine d'isolement. Très très bien voilà. Vu, mon cher Thibaut, et vous pouvez évidemment partager et faire écouter à vos enfants, petits-enfants qui passent le bac philo cette année, cette chronique philo. Après les nourritures de l'esprit, les nourritures terrestres avec Grégory Cohen. Alors Grégory Cohen, la recette deux saisons à partager ce week-end, c'est un cake au poire caramélisé, cœur chocolat.
Ça va être le running gag, non ça ?
Oui, un petit peu.
Ok, d'accord.
Tout au long de la saison.
Alors oui, en plus, surtout que les poires, on a des poires d'été, des poires d'automne, et miracle, on a aussi des poires d'hiver, comme la passe crassane et la comisse, comme ça je cite mes sources. Alors pour faire ce cake au poire caramélisé, cœur chocolat, il nous faudra 160 grammes de farine, 2 œufs, 60 g de sucre en poudre et 60 g de sucre glace, 15 cl de lait à température, 50 50 g de beurre pommade, un sachet de levure, 6 carrés de chocolat. Alors du chocolat noir 80% parce que comme ça il est pas trop fort en sucre et il va donner un petit peu d'amertume, deux poires évidemment. Et puis 30 grammes de sucre. Alors avec ces 30 grammes de sucre, on va faire un caramel à sec. Alors à sec, ça veut dire qu'on va démarrer sans aucun autre additif, donc pas de liquide, pour réaliser ce caramel dans une poêle très chaude. Le sucre va fondre, il va prendre une belle couleur ambrée. On retire alors le caramel du feu, on le coule sur une feuille de papier sulfurisé, on le laisse refroidir et après on va le piler. Alors soit avec un robot, soit avec un mortier pour obtenir de la poudre de caramel. On va découper nos poires en dés de environ 1 cm, 1,2 cm, comme ça je suis très précis, et on va les enrober dans la poudre de caramel. Ensuite, on va réaliser notre pâte du gâteau. Alors, on sépare les blancs des jaunes. On monte les blancs en neige avec le sucre glace. On fouette à part les jaunes avec le sucre en poudre. Ils vont quasiment doubler de volume. On dit qu'on blanchit les œufs. On ajoute alors la farine tamisée, le sachet de levure, le lait et le beurre. On continue à fouetter pour homogénéiser la pâte. Et on incorpore délicatement les blancs en neige. Et puis alors là, il faut maintenant passer à la cuisson. Alors dans un moule à cake préalablement beurré et fariné, on met une première couche de pâte à gâteau, on dispose la moitié des cubes de poire, les morceaux de chocolat, on rajoute le reste de la pâte à cake, on remet le reste des cubes de poire, on enfourne dans un four préchauffé à 165 degrés pour environ 40 minutes, on laisse refroidir, on démoule, le chocolat va avoir fondu à cœur et les poires vont avoir caramélisé. À coup sûr, un combo gagnant.
Maria Mazorette, ça va? Tout va bien?
Tout à fait. Un combo de saison, par ailleurs.
Gagnant de saison. Merci, Maria. Si vous
et on peut
aussi
retrouver la recette de saison de Grégory Cohen sur votre compte Instagram, Grégory Cohen off, off avec...
De F.
Dans un instant, la chronique sexe de Maria Mazorette. Je sais, c'est ringard, mais je sens que ça peut plus s'arrêter, cette histoire. Et on écoute Hervé, permis de construire.
Je savoure mon blues de terrien. Je remets le courage à demain, c'est rien. Incendie volontaire, j'emmènerai rien plus loin. Je lance des adieux salutaires, je laisserai faire le destin. Je demande un permis de construire. Qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Que je me regarde en face, consacré mes yeux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel. Je fais juste un état des lieux. Partout y'a du sang sur les mains. Mais moi je fais comme si c'était rien, c'est bien. On s'est dit volontaire qu'on irait bien plus loin. Je lançais des adieux salutaires, je laissais faire le destin. Je demande un permis de construire, un permis de détruire qui fait de moi cette ruine. Je demande un permis de faire mieux. Que je me regarde en face, consacré mes yeux. Moi je voudrais trouver ma place sans trace dans le computer. Un cran d'un radar qui fait tourner les cœurs. Un permis de conduire mon destin sans en venir aux mains. Y'a rien de personnel, je fais juste un état des lieux.
Hervé, permis de construire.
Robin, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
Et c'est l'heure de la chronique sexe de Maya Mazorette. on reste dans le domaine de la fiction, ma chère Maya. Tu nous parles ce matin de simulation.
Oui, car nous avons des chiffres tout neufs sur la question, des chiffres qui datent du mois dernier. Plus de 9 femmes sur 10 admettent avoir déjà simulé un orgasme au cours de leur vie. Et si vous pensez que cette première info fait mal, attendez la suite. 11% des femmes simulent à chaque rapport sexuel, à quoi il faut encore ajouter 47% de simulatrices régulières. Et les hommes, me demande Grégory Cohen, eh bien, ils ne gagneront pas cette guerre des sexes-là. Moins d'un tiers ont déjà simulé, ça fait pas beaucoup. Ce différentiel femmes-hommes s'explique de plein de manières, dont une que j'aime bien. Les femmes sont de meilleures menteuses. On le sait, parce que les enquêteurs ont demandé aux sondés s'ils pensaient que leur partenaire avait déjà simulé. Et pour 81% des hommes, c'est niette, comme quoi il y en a vraiment qui doutent de rien. Je vous fais un petit calcul. 15% des hommes pensent que leur partenaire a déjà simulé. Le vrai chiffre est de 91%. On sort notre calculette, ça fait 76% des hommes qui prennent les vessies pour des lanternes. Et qui sait les clitoris pour des vessies? Et qui sait les aubergines pour des légumes de saison? Les femmes, en revanche, sont plus lucides. Elles sont 19% à penser que leur partenaire a pu feindre un orgasme. Et c'est pas très loin du vrai chiffre. Chronique un peu déprimante,
c'est
peut-être.
Un peu déprimant, oui, ma chère Maya.
Certains hommes pourraient être blessés dans leur ego. En même temps, qu'y a-t-il de plus facile que blesser l'ego d'un homme? Je referme pudiquement cette parenthèse. Car en fait, tout ne va pas si mal quand on décortique les chiffres. Par exemple, les femmes simulent pour des raisons altruistes. Ces raisons sont au nombre de 3, à peu près à égalité. Première raison, booster l'ego de leur partenaire. Deuxième raison, éviter de le vexer. Troisième raison, abréger l'acte sexuel pour finir sa série sur Netflix. En plus, dans l'émission, on a eu plein d'idées de trucs à regarder. Chez les hommes, je vous préviens, les motivations sont nettement plus égoïstes. 71% cherchent à augmenter leur excitation pendant l'acte. Seuls 18% cherchent à flatter leur partenaire. Ça peut paraître altruiste. Mais je me permets une petite remarque. Quand on a un rôle actif et qu'on flatte le partenaire, c'est quand même toujours un peu soi-même qu'on flatte au passage. Je referme également pudiquement cette parenthèse.
Maya, je ne suis pas vraiment sûr qu'on ait vraiment envie de connaître ce genre de chiffres.
Toutes les vérités sont-elles bonnes à entendre? Vaste question surtout au lit. Le sexe est-il l'espace de l'absolue vérité humaine, comme quand on évoque les confidences sur l'oreiller? Ou au contraire, le sexe n'est-il que fourberie, mascarade et trahison? Souvent, on assimile la simulation justement à un mensonge. Mais ça dépend vraiment de notre grille de lecture. Parce qu'en fait, quand on simule, c'est pour dire une autre vérité sur ce qui se passe dans la chambre à coucher. Une autre vérité qui semble plus importante sur le moment. Non pas la vérité de l'orgasme, qui de toute façon ne dure que quelques secondes, mais la vérité de la relation, des sentiments, du souci de l'autre. La vérité peut-être aussi d'un statu quo confortable dans le couple. J'ai pas joui, mais c'est pas grave. J'ai pas joui, mais je t'aime quand même. Cette grille de lecture plus émotionnelle, plus empathique, elle est peut-être moins tangible qu'un orgasme, mais ça l'empêche pas d'exister. Et à travers le simulacre, de révéler un accord implicite. Parce qu'en fait, on le sait que les femmes simulent. On connaît pas toujours l'ampleur de cette simulation, mais franchement, c'est un secret de polichinelle. Ma théorie, c'est que les simulations des femmes répondent à l'aveuglement volontaire des hommes, parce que fondamentalement, simuler, ça arrange tout le monde. À ce titre, parler de la simulation comme d'une pure fiction, c'est limiter le réel à une question de décharge nerveuse et chimique, et c'est finalement faire peu de cas de l'érotisme et plus encore de la psychologie. La simulation n'est pas juste un spectacle son et lumière, pas juste une fiction réconfortante. C'est un révélateur des jeux de l'amour et du pouvoir dans le couple.
Et Julien Bisson qui a très envie de réagir.
Non, juste rappeler pour ceux qui croient que les hommes qui croient que ça n'arrive jamais, qui revoient le film Quand Harry rencontre Sally, cette scène mythique avec notre ami Meg Ryan.
Vous voulez la rejouer, la scène? Merci beaucoup, Maya Mazorette. Une chronique à podcaster sur l'appli et sur le site de France Inter. Et Christine qui nous écrit ce qui fait du bien ce mois de janvier, c'est votre complicité sur le plateau ce matin. Cela fait vraiment du bien de voir ou entendre des personnes s'exprimer simplement avec sincérité, humour et avec esprit. C'est pour vous, les amis.
Merci.
On se retrouve très bientôt.
Merci.
Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse Loisir. Merci à tous. Vous pourrez retrouver toute la sélection sur l'appli France Inter. Lundi, j'attends toutes vos questions sur les maux de ventre, les moyens naturels de prévenir la colopathie fonctionnelle, le reflux gastro-œsophagien, les ballonnements, le syndrome du foie gras. C'est pour vous, Eric Libio. N'hésitez pas à interroger d'ores et déjà le professeur Gabriel Permuter et le docteur Philippe Godeberge sur l'appli France Inter.